engagés sont devenus bien vous. Bienvenue ici dans le studio RTS à Belfort. Vous venez dans le cadre des conférences Racine et Chemin dans notre région. Alors vous êtes psychiatre de formation et de profession, et vous êtes aussi professeur émérite de psychiatrie aux facultés de médecine de Lyon et de Tunis. Alors vous vous intéressez particulièrement à la condition des femmes musulmanes. Vous avez sorti deux livres, l'un en 2011 qui s'intitule « Les femmes et la discrimination » avec comme sous-titre « Dépression, religion et société ». Et en septembre dernier, vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle « Daesh, la dernière utopie meurtrière ». Alors, lors des conférences Racine et Chemin, vous interviendrez sur le thème migration et religion en islam. Alors, c'est un thème qu'on pourrait prendre de plein de manières différentes. Alors, comment est-ce que vous avez décidé de l'aborder?
D'abord, je vous remercie de m'inviter et de me donner l'occasion justement d'en parler. Il faut dire que le sujet, je ne l'ai pas choisi. Il a été proposé gentiment, donc par mes amis de Racine et Chemin. Mais comme en fait il faisait partie de mes préoccupations et du travail dont vous venez de parler à propos de Daesh, effectivement je me suis beaucoup intéressé à la religion, à la migration, etc. Donc finalement j'étais prête un petit peu à aborder ce sujet. Je vais aborder de deux manières, si vous voulez. D'abord j'ai mon vécu et mon expérience personnelle de migrants et de musulmans, de psychiatres également, tu entends beaucoup de gens lui parler. Et puis j'ai beaucoup lu sur le sujet, effectivement, je me suis enquéri auprès de les patients, de la patientèle, auprès de la communauté musulmane de façon générale. Et donc, ce n'est pas que du vécu. Que je vais rapporter, ce sont également des données objectives. Voilà si ça répond à votre question.
Quel constat, en fait, on peut faire aujourd'hui, en 2016, à propos de ce thème de la migration, de la religion, quand on est dans un pays occidental et qu'on suit les médias, en général, on a l'impression que tout est lié, tout est mélangé.
Tout est mélangé, surtout. Ouais. Tout est lié aussi. Tout est lié aussi. Et, en réalité, si on veut faire un petit point, on va dire que, indépendamment de l'islam, hein, la religion et la migration ont toujours et continuent à entretenir des liens très étroits. Pardon. Et ont fait l'objet d'énormément d'études sur le sujet, alors qu'il s'agit du christianisme, du judaïsme, de l'islam, etc. Parce qu'on sait qu'effectivement, la migration, quand elle se fait, en particulier dans une culture qui vous est étrangère, constitue une sorte de menace pour l'identité personnelle, l'identité collective, l'identité culturelle que résume vers le concept d'assimilation. C'est aussi finalement, on se dissout dans la société d'accueil. Donc, par rapport à cette menace, tout un chacun est tenté, d'une part, cette menace, et d'autre part, le brouillage des repères. On n'est pas très familier avec les codes anthropologiques que l'on rencontre, parfois même avec la langue, etc. Donc il est tout à fait normal et naturel de chercher à se replier sur ce qu'on connaît, donc sur sa communauté, sur sa culture, sur sa religion, en tant que faisant partie de cette culture. Donc jusque-là, c'est une réaction tout à fait normale et tout à fait saine. Et d'ailleurs, la communauté musulmane a vécu pendant des dizaines d'années en France, parce que nous sommes en France, je parle de la France, mais dans le respect absolu des lois de la République, on n'a jamais entendu parler du bien-vivre ensemble, parce qu'il se pratiquait, on n'avait pas besoin d'en parler. Et là, brutalement, ça fait quand même au moins deux bonnes décennies, et c'est vrai que les choses ont complètement changé. Puisque les événements tragiques qu'a connu la France, comme d'autres pays européens et non européens, ont démontré que la liaison, disons, qu'entretenait la communauté d'origine immigrée avec sa religion pouvait être dangereuse. Et pouvait vraiment secréter, malheureusement, on l'a vu, des êtres dangereux, qui, bien que français, se retournent contre leur propre pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est la question qu'on doit se poser. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi des gens qui étaient parfaitement intégrés, bien adaptés, qui ne posaient aucun problème par rapport à la laïcité, parce que c'est un phénomène récent également. Hein, c'est depuis, justement, le décès le plus fort du voile, grosso modo, disons, que l'islam, c'est visible à travers le voile, à travers les tenues dites afghanes, je crois, bon, à travers des déguisements de toutes sortes, des burkinis, etc. Et c'est fait offensif. Alors, il y a une enquête à laquelle je vais me référer, qui vient d'être publiée par l'Institut Montaigne, vous devez en avoir entendu parler, extrêmement intéressante. C'est la première de genre sur les musulmans de France, justement. Qui sont? On parle des musulmans, par les musulmans, par les musulmans, qui sont-ils, finalement? Et alors, bon, il y a énormément de statistiques, mais le résultat majeur, le plus important, est que, bon, ça s'est fait sur un échantillon global d'à peu près 15 000 Français, dont à peu près un millier de musulmans. Et dans ces milliers de musulmans auxquels on a posé des tas de questions par téléphone, donc c'est entre avril et mai 2016, c'est tout à fait récent. Alors, on constate d'abord que c'est une population. Ça représente à peu près 6% de la population française. Maintenant, donc on a des chiffres un peu plus précis. C'est une population jeune, qui est plus jeune que la population majoritaire, comme on dit. C'est une population plus pratiquante que le reste de la population. Et dans cette échantillon, on a identifié trois groupes. Un groupe qu'on peut dire vraiment sécularisé, qui n'a aucun problème, ni avec la religion, ni avec la laïcité, ni avec les lois de la République, etc., qui est vraiment, on peut dire, totalement intégré, en voie de parfaite intégration. Un groupe intermédiaire, qui eux aussi, bon, comprennent tout à fait la laïcité, mais le plus grave, c'est qu'on a identifié un groupe de 28%. Quand même de tiers, que les auteurs mêmes de l'enquête ont qualifié de sécessionnistes parce qu'ils considèrent que les lois de Dieu sont très au-dessus des lois de la République. C'est un groupe très inquiétant, d'autant plus inquiétant que le taux s'élève à 50% dans la tranche d'âge de 15-25 ans. Voilà, cette population adolescente, 1 sur 2 est fondamentaliste, avec deux marqueurs d'identité très importants, la dame halal, par exemple, vous avez vu que 70% des musulmans de France mangent halal, et qu'ils considèrent que c'est un des piliers de la religion, ce qui n'est pas vrai, hein. Vous voyez, leur rapport à la religion est vraiment, bon, cocasse. Et le voile. Alors là aussi, ils sont à peu près 70% à considérer que la femme doit porter le voile, mais elles ne sont que 30% à le faire. Bon. Ces contrastes, etc., en disent long sur vraiment la méconnaissance de la religion. À part de ces gens qu'on dit ultra-religieux. On a parlé même de sur-musulmans. Mon collègue de psychiatre Fredelken a écrit un livre sur les sur-musulmans. Et effectivement, en termes de visibilité, ils aimeraient afficher, ils le font, exhiber même, une surenchère d'islamité à travers des signes extérieurs, comme en revenir au burkini. C'est très inquiète. Alors, ma question. Et parmi ces Français, 1 sur 2 est né en France, français, les musulmans. Un adolescent, quand ça passe 5 ans, c'est un adolescent, hein, un adolescent sur 2 considère que les lois de Dieu sont supérieures aux lois de la République. Comment en est-on venu là? Alors, c'est là où je veux dire qu'il y a deux grands facteurs pour moi. C'est la conjonction de deux grands facteurs. Parce que toutes les hypothèses sont par définition multifactorielles. Il n'y a jamais un seul facteur qui intervient. Il y a toujours deux facteurs. C'est la rencontre entre une offre et une demande, disons. Et c'est comme la clé de la serrure. Alors là, ça s'emboîte parfaitement. La demande, c'est une demande qui émane de ces jeunes, de cette population, d'origine immigrée, musulmane, qui se vit comme discriminée, comme exclue. Ça, c'est certain. Bon. Et toutes les populations discriminées vont essayer de marquer leur différence, à la limite de renverser le stigmate, pour en faire, pour l'afficher. Bon, tu ne veux pas de moi avec mon voile? Eh bien, je vais me mettre en voile intégral. Comme ça, je ne serai plus transparente à tes yeux. On y reviendra à la problématique de la visibilité et du mépris. Je veux devenir survisible. Donc, il y a cette exclusion, on y reviendra. Et il ne faut pas se les cacher. En France, il y a une offensive salafiste, wahhabite, bon, sans précédent. Bon, qui se défendent depuis effectivement au moins 2 décennies à l'échelle du monde entier, en particulier dans les pays occidentaux, auprès de toutes les communautés musulmanes, et dans les pays musulmans également, parce qu'ils ne les considèrent pas comme musulmans. Bon, et leur question, effectivement, les effets de leur français sont démultipliés par une puissance financière. Donc, il ne faut pas que le café ait un prosélytisme évident. Et un jeune, vous savez comment, comme il est sensible aux dealers qui veulent lui vendre de la drogue, il est sensible aux arguments aussi de ce que j'appelle moi de ces dealers aussi, hein, parce qu'ils vivent d'une manière ou d'une autre un produit toxicomanogène. Donc voilà les deux grands penseurs. Je ne veux pas parler d'autre chose.
Très bien, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve tout de suite après. Bon.
En Franche-Comté, à Montbéliard, sur le 88.3.
Nous sommes toujours en compagnie de Saïda Doukou de Dieu, qui est psychiatre de formation et de profession, et aussi professeur émérite de psychiatrie aux facultés de Lyon et de Tunis. Et vous êtes avec nous puisque vous étiez de passage à Belfort dans le cadre des conférences Racine et Chemin. Alors, le thème de votre conférence est Migration et religion en islam. Alors, j'aimerais revenir sur un point que vous avez abordé en première partie. Vous avez parlé de visibilité et de mépris. Alors, expliquez-nous ce que vous entendez par là.
Si vous me permettez, je vais laisser ça un petit peu pour la fin. Hein. Je vous ai dit que j'aborderai cette problématique à la fin parce qu'elle est centrale. C'est vraiment une problématique centrale. Je vous parlais surtout, je vous disais que c'était le résultat un petit peu qu'on observe actuellement de cette hyper-religiosité apparente des musulmans de France. C'était le résultat de la conjonction de deux grands facteurs, qui sont d'une part l'exclusion sociale telle qu'elle est vécue, hein, et d'autre part le conflit salafiste ou adulte, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, l'exclusion sociale, elle est ressentie, certes. Elle est ressentie depuis, en fait, la chute de l'Empire islamique. C'est historique, c'est même pas... C'est ce que j'ai appelé, d'ailleurs, dans mon livre, une humiliation sans fin. Le monde musulman est vraiment dans un état de souffrance, le musulman, depuis la décadence. Parce qu'après vraiment avoir connu ce destin glorieux, l'Empire islamique s'est effondré complètement. Bon, et nous n'en voyons aujourd'hui que les jeunes. Je n'ose même pas dire vestiges. Donc, parachevé par la colonisation, parachevé par l'impuissance du monde arabe musulman aujourd'hui. Moi, ça me voit déferler ces centaines, ces millions de migrés fuyant leur pays musulman, la Syrie et l'Irak, pour se réfugier en Occident, et non pas chez leur corps religionnaire, mais ça les honte. C'est vous dire donc que ces sentiments d'humiliation, c'est-à-dire, se doublent aujourd'hui de sentiments de honte. C'est une atteinte à la dignité de musulman que de ne pas voir les frères musulmans ultra riches fermer leurs frontières. À des réfugiés, ces gens qui sont obligés de voir des enfants se noyer dans la mer. Donc, oui, c'est forcément. Il y a un terme qui est intraduisible en français, arabe, qui s'appelle Kahr, le Caire d'ailleurs. C'est la capitale d'Égypte, c'est Kahr en arabe, le Kahr. Kahr, ça traduit, c'est à la fois la frustration, la colère, la rancœur, le ressentiment, l'impuissance. C'est tous ces sentiments qui animent, vous voyez, cette jeunesse, je ne suis pas la seule, c'est tout la jeunesse, vous voyez, qui voit tout ça. Qui voit le monde arabe impuissant devant le conflit israélo-palestinien, qui voit le monde arabe ultra riche, mais alors là, qui ne se montre d'aucune solidarité, et puis qui vous pousse finalement à chercher, refuge et asile chez un fond de puissance coloniale. Donc le comble de l'humiliation, c'est finalement d'aller chercher refuge. Bon, pour nous, les Maghrébins, en France, refusent que ce soit économique, asile économique, politique, même quand il y a des problèmes politiques, c'est en France qu'on vient chercher asile, scientifique. La preuve, c'est que je suis venue ici, je vais terminer. Ma retraite, je veux dire, c'est vrai, on vient chercher d'autres conditions de travail, de réflexion, etc. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ce porté déjà d'humiliation, de honte, etc. Mais, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que la communauté immigrée en France qui est touchée par ce phénomène. Et je regarde mon autre pays, la Tunisie. Vous savez très bien que la France et la Tunisie, comme par hasard, sont les deux cibles privilégiées des attentats terroristes. Et c'est l'alternative, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Et deuxièmement, je veux dire, elles sont les principaux, les principales pourvoyeuses de djihadistes. La Tunisie et la France. Ces petits pays de la Tunisie envoient 6 000 djihadistes, c'est le record mondial. La France, près de 2 000, c'est le record européen, c'est le record des pays occidentaux. Donc, ça veut bien dire que ça. C'est exactement le phénomène. Alors, quand on étudie de près, on voit qu'il n'y a rien de pire que d'être humilié chez soi. Être humilié, à la limite, dans un pays étranger, on peut en concevoir. Mais l'humiliation chez soi, c'est elle qui a été à l'origine des printemps arabes. N'oubliez pas que c'est la Tunisie qui est l'initiatrice du printemps arabe. N'oubliez pas que c'est le suicide. Bon, d'avant, justement, comme ces jeunes vous ont parlé, bon, chômeur, malgré ses diplômes, bon, et dont les gens disent, peu importe, qu'il avait reçu une vie sous une femme policière, qui n'avait eu à fond l'humiliation et l'atteinte à la dignité, c'est ça, le café qui a allumé le feu, qui ne va pas s'éteindre encore. Vous vous rendez compte? À tel point, dans tous les slogans du printemps du jasmin, essentiellement, le mot qui revient le plus souvent, c'est dignité. À tel point qu'après donc la révolution, on a ajouté à la devise de la République tunisienne dignité. Avant c'était liberté, ordre, justice. Maintenant c'est liberté, dignité, ordre, justice. Pour vous dire, la dignité c'est quelque chose d'extrêmement important pour les Arabes. L'honneur, le crime d'honneur, c'est une atteinte à la dignité. Même s'il ne me touche pas personnellement, mais il touche ma soeur, elle touche ma mère, elle touche ma fille, etc. Et cette atteinte à la dignité, si vous voulez, il y a un terme aussi, un autre terme arabe, que je vais vous dire, que je vais essayer de vous traduire, qui est Nekira. Nekira, qui veut dire invisible, transparent, anonyme. Si on déguise pour passer inaperçu, on dit itnakar. Non identité, m'a dit quelqu'un un jour, un jeune des banlieues, comme si on n'avait pas d'identité du tout. Les Français passent, ils nous regardent, mais c'est comme si on était transparent. Or, toutes les études m'ont montré, je reviens à la visibilité au mépris, que dans les études sur le mépris, la notion de visibilité est centrale. Et c'est pour ça que les gens disent, moi je préfère être détesté, être craint, être haï, être ignoré et méprisé. Que le regard de l'autre ne me traverse pas, et qu'il se détourne de moi. Voilà ce que ça veut dire. Voilà pourquoi les musulmans cherchent à gagner, je ne dis même plus en visibilité, mais en sur-visibilité. C'est une sorte de bercule sur la place. C'est en évidence à la provocation. Parce qu'en fait, quand on est une femme pieuse, une musulmane pieuse, on ne va pas se baigner dans une place mixte. Donc c'est évidemment de la provocation. Tout ça pour vous dire, pour conclure, parce que je pense que vous allez bientôt m'arrêter impérativement. Pour conclure, que et c'est le message le plus important, nous n'avons pas affaire à une hyper religiosité, puisque ça concerne à la fois. Et ça n'a pas de relation spécifique à la migration. Ça concerne à la fois la communauté d'origine immigrée, ça concerne à la fois le pays de départ, le pays de départ comme la Tunisie, mais ça concerne aussi des Français de souche qui se sont convertis. Donc, le message essentiel, c'est que on ne parle pas de religion. On parle de dérives sectaires, de appelez ça comme vous voulez. Mais moi, j'appelle tout simplement du salafisme, du wahhabisme. Ils ont une interprétation particulièrement rétrograde, littéraliste de la religion. C'est une nouvelle religion qui n'a rien à voir avec mon islam à moi, enfin, dans lequel j'ai été élevé. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont tous convertis, en fait. Aussi bien le chrétien d'origine que les musulmans d'origine. Et c'est pour ça que les musulmans, d'être les principales victimes aussi, les attentats, parce que nous ne sommes pas considérés comme musulmans aux yeux de ces gens-là. Donc, cette dérive, disons, sectaire, qui est en train de toucher quand même près d'un jeune musulman français sur deux, est plus lié à l'exclusion sociale qu'à la migration. Et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Saïda Doutil de Dieu, pour toutes ces explications autour de cette conférence que vous avez tenue à Belfort dans le cadre du cycle de conférences Tracer mes chemins, et la thématique était migration et religion en islam.
Au revoir.